Pendant cette semaine, cette première semaine du temps de carême, beaucoup de gens sont venus à l'accueil ou en rendez-vous pour dire qu'ils menaient un combat sérieux, un combat spirituel sérieux, soit qu'ils étaient assaillis de pensées haineuses, de rancœurs parfois anciennes qui remontaient, soit qu'ils étaient assaillis par un sentiment de dénigrement de soi, l'impression de ne pas y arriver, de ne pas valoir grand-chose, voire rien du tout, ou bien l'impression que leur effort ne valait rien, que de toute façon ils échoueraient. Il y avait chez beaucoup de personnes rencontrées cette semaine ce sentiment d'être mis à l'épreuve, d'être bousculé. Et assurément, le carême est un temps de combat. Le carême est comparé à un temps au désert. Or, le désert n'est pas seulement le lieu où, comme le dit le prophète Osée, le Seigneur parle au cœur de son peuple en le mettant à l'écart pour être tranquille d'une certaine manière, pour lui parler, pour que le peuple soit disponible. Le désert, c'était aussi dans la tradition d'Israël le lieu où habitent les démons. Et l'on voit cela dans Jésus au désert, on l'a entendu la semaine dernière. Pendant 40 jours, il est au désert, jeûnant et mis à l'épreuve par le diable. Et donc, il n'est pas étonnant que nous soyons bousculés, éprouvés pendant ce temps de carême. Et c'est déjà, j'allais dire, une première consolation que l'on peut entendre. Parce que parfois on se dit, mais si je suis éprouvé comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis pire que les autres? C'est pas possible. Non, c'est le temps du carême est un temps de combat. Ne soyez pas étonnés d'être bousculés. Mais alors, l'épisode de la transfiguration que nous entendons aujourd'hui est un épisode providentiel. Parce que cet épisode a été une consolation pour les apôtres éprouvés. Et ça a été une consolation pour les apôtres et ça peut être une consolation pour nous. Comment ça? Les apôtres étaient éprouvés? Oui. Ils venaient de reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Sauveur. Et à partir de cette étape, Jésus a annoncé quelque chose qu'il n'avait jamais entendu et qu'il n'avait jamais prévu, que Jésus devrait connaître la Passion, qu'il serait trahi, qu'il serait mis à mort, qu'il serait enseveli. Et une parole qu'ils ne comprennent pas très bien, qu'il se réveillerait d'entre les morts. Et ça a fait un choc pour les apôtres. Ils se disaient, on a trouvé le Sauveur, ça, tout va bien marcher. Les Romains, ils n'ont qu'à bien se tenir, là, ils vont chasser. Israël va retrouver sa liberté et on va avoir le roi de gloire qui va régner sur nous. Et voilà que Jésus annonce sa Passion. Pierre qui entend ça, il se dit, mais il fait un coup de déprime ou quoi, Seigneur, que Dieu t'en préserve. Et Jésus lui dit à ce moment-là, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et donc les apôtres, vraiment, il y a quelque chose pour dire, mais on ne comprend pas, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Et ils peuvent se demander, mais est-ce que Jésus fait un coup de déprime, de fatigue Mais ils sont bousculés. Et voilà qu'il leur est donné de voir, de faire l'expérience de cet épisode de la Transfiguration. À travers cet épisode, ils vont voir la divinité de Jésus se manifester, mais se manifester pas à l'extérieur, pas au-delà, à l'intérieur de son humanité. C'est son visage qui devient tout éblouissant de blancheur. C'est dans cette humanité fragile, cette humanité qui vit, qui fatigue, cette humanité qui peut avoir mal, que la puissance de Dieu se révèle, se déploie, rayonne. On pourrait dire se partage même ses vêtements deviennent éblouissants. Et donc, on a la vision, ils ont la vision, eux, qui pouvaient se demander, mais c'est bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est bien lui, il a la puissance d'être le Sauveur, c'est bien le Sauveur qu'on attend. Et pour nous aussi, nous entendons cela, il est bien le Sauveur que nous attendons dans la fragilité de notre humanité. Et puis, il y a une deuxième consolation qui est donnée, c'est la parole du Père. Parce qu'on pouvait se demander, là, si Jésus est en pleine crise, là, une crise de déprime, est-ce qu'il faut encore l'écouter? Parce que, parfois, lorsqu'on est au fond du trou, nos discours, nos paroles, c'est pas les meilleurs qu'on a donnés. Est-ce qu'il faut encore, est-ce qu'on peut l'écouter ? Et il y a l'attestation du Père, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Le Père vient confirmer l'autorité des paroles de Jésus, le Père vient confirmer que ce que dit Jésus, qui nous bouscule, est bien parole de Dieu, est bien parole de salut. Écoutez-le, écoutez-le. Ah ben oui, ça veut dire qu'écouter, ce n'est pas toujours facile. Écouter, ce n'est pas toujours facile. Écouter, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs d'assez compliqué dans notre humanité, déjà dans la vie courante. C'est d'abord une question de patience. Vous savez, en France, en moyenne, il ne se passe pas plus de 23 secondes avant qu'une personne soit interrompue par son interlocuteur. Ça, c'est une étude médicale de 2017. Donc, au-delà de 23 secondes, c'est stop, hein, t'as suffisamment parlé. Du coup, écouter jusqu'au bout, c'est bien une épreuve, mais c'est aussi certainement un cadeau de grande valeur que l'on offre. Écouter, c'est une question, on pourrait dire, d'exhaustivité de la vérité. Pourquoi j'ai pas envie d'écouter ? Parce que j'ai déjà mon idée. Qu'est-ce que l'autre pourrait bien ajouter ? Est-ce que son ajout vaudrait la peine ? J'ai bien réfléchi, donc soit il est d'accord avec moi, alors à quoi bon l'entendre, hein, répéter ce que je pense ? Soit il n'est pas d'accord, mais c'est qu'il n'est pas rationnel, puisque moi j'ai bien réfléchi. Et s'il n'est pas rationnel, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser ? Donc, si j'ai bien réfléchi, pourquoi écouter ? Mais écouter l'autre n'est pas forcément une mise en doute de notre propre jugement, mais peut-être un enrichissement par un nouveau point de vue. Imaginez la scène suivante pour essayer de comprendre ça, un enrichissement d'un autre point de vue. Vous êtes, on va dire, dans un musée, il y a une statue, je ne sais pas, d'une jeune femme au milieu de la pièce, et il y a deux entrées, il y a une entrée au nord, une entrée au sud. Vous avez deux personnes qui entrent de chaque côté en même temps. Et on leur demande comment est disposée la statue. Ben vous en avez un qui dit « La statue, elle est de dos. » Et vous avez l'autre qui dit « Ah non, pas du tout. La statue, elle est de face. » Mais ce n'est pas qu'il y a l'un qui a tort et que l'autre a raison. C'est que les deux regardent la même réalité, mais avec un point de vue qui est différent. Et les deux points de vue viennent s'enrichir. Écouter l'autre n'est pas forcément mettre en doute notre propre jugement, mais accepter l'enrichissement d'un nouveau point de vue. Et c'est aussi une question d'effort de compréhension du bien que cherchait l'autre, écouter. Vous voyez, si l'autre n'est pas d'accord avec moi, souvent on prend son avis comme une injonction, un ultimatum. Et bien sûr, on n'aime pas ça, les ultimatums, c'est très désagréable. Pourtant, cette différence, ça pourrait être l'occasion de poser une question, et d'ailleurs poser une question pas forcément pour être d'accord à la fin. Non, mais poser une question pour comprendre la logique de l'autre. Quel est le bien que tu poursuis en disant cela ? Quel est le mal que tu veux éviter en disant cela ? Étonnamment, faire cet effort, car c'en est un, c'est un acte de communion. J'accueille l'autre dans sa différence, en faisant l'effort de comprendre sa logique. Quand bien même je trouverais des choses à redire, mais je t'ai accueilli en essayant, en tâchant de comprendre quel était le bien que tu cherchais en disant cela, quel était le mal que tu voulais éviter en faisant cela. Bien, vous voyez cela, on peut l'appliquer justement à ce qui se passe avec Jésus qui annonce sa passion. Pourquoi ce chemin ? Plutôt que de rester sans rien dire. Pourquoi ce chemin ? Quelle peut être la bonté de ce chemin ? Pourquoi ce chemin est-il meilleur, Seigneur ? Parce que ce Messie souffrant n'abandonne pas notre vie. Jésus va connaître la souffrance, pourquoi ? Pas parce qu'il aime la souffrance, mais parce qu'il va rejoindre l'homme là où le péché l'a conduit. Le péché a conduit l'homme dans l'impasse de la mort. Et pour le sauver, Jésus est prêt à aller jusque-là. Jésus ne se dit pas « c'est trop compliqué, c'est trop sale pour que j'y mette les pieds ». Prenez l'image d'un pompier qui va dans les flammes pour en retirer quelqu'un. Le pompier peut-être dira-t-il « j'ai aimé aller dans les flammes parce que ça te sauvait ». J'ai pas aimé aller dans les flammes parce que ça brûlait et qu'on était asphyxié par la fumée. mais j'ai aimé aller dans les flammes parce que c'était le salut pour toi, parce que c'est ainsi que ta vie pouvait être protégée, gardée. Sauver une vie humaine, c'est rejoindre son histoire. C'est pas nier ses échecs, ses contradictions, c'est pas les effacer comme si la liberté qui s'était exprimée tout au long du temps ne comptait pour rien, mais prendre acte de la situation telle qu'elle est et par sa présence ouvrir, apporter un avenir. Le prophète Ézéchiel a peut-être manifesté cela de façon très caractéristique, où on voit à une époque de grande infidélité du peuple, le Seigneur qui se plaint en disant « Mais mon peuple fait tout pour que je ne puisse pas rester au milieu d'eux. » Et à cette époque-là, au temple de Jérusalem, il y a des idoles partout, il y a des pratiques magiques qui sont instituées partout. Alors la gloire de Dieu se retire du temple. Et le peuple va partir en exil, le temple va être détruit. Et on pourrait dire « Ah mais... est-ce qu'il peut y avoir une espérance? Est-ce qu'il ne faut pas anéantir ce peuple et recommencer avec un autre ?» Et le Seigneur va donner un espoir. Et le premier espoir qu'il va dire à ce peuple qui se dit « Mais nous avons tout perdu, notre terre, notre roi, notre temple. » Et le Seigneur intervient pour dire « En exil, je serai moi-même leur sanctuaire. » Très étonnant. Le Seigneur qui dit « Ils avaient tout perdu. Eh bien, moi j'irai là où ils sont. » Et je serai moi-même leur sanctuaire. Je, par ma présence, je vais leur donner la possibilité justement de me rencontrer, d'avoir accès à ma vie, à ma force, pour pouvoir revenir. Eh bien, Jésus, Messie souffrant, à la fois Messie transfiguré, est celui qui vient nous dire, je ne viens pas effacer ton histoire comme si elle ne valait rien. Mais je viens ressaisir ton histoire, même dans les lieux les plus blessés, les plus ravagés. Et par ma présence, j'ouvrirai un chemin. Seigneur Jésus, qu'en ce deuxième dimanche de carême, le signe de la transfiguration soit pour nous une consolation. Qu'éprouver, cet épisode nous donne de dire un moment comme les apôtres, il est bon que nous soyons ici en contemplant l'éclat de ta gloire un instant. Que la voix du Père aussi nous conforte dans l'écoute de son Fils, en confiance, quand bien même cela nous surprend. Que nous apprenions l'écoute véritable, que nous osions interroger pour comprendre, que nous osions interroger parce que nous avons confiance qu'il y a bien du sens à saisir, et qu'il y a bien une bonté à découvrir. Amen.